reportage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Au Congo, les conditions d'une présidentielle transparente et apaisée sont-elles réunies? Nous en parlerons ce soir, mais en Centrafrique voisine, le scrutin présidentiel s'est tenu le 27 décembre dernier. La victoire dès le premier tour du président sortant a été confirmée ce lundi. On en parle avec notre invité.
Décryptage dans le Grand Rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Cardinal Dieudonné Zapalenga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archevêque de la capitale centrafricaine Bangui. Comment réagissez-vous à la confirmation par la Cour constitutionnelle ce lundi de la réélection du président sortant Archange Touadéra dès le premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier?
Je pense que le peuple centrafricain en 2016 avait voté la constitution et tous, sans exception, nous devons nous référer et respecter. Il s'agit d'un instrument qui doit être au-dessus de nous tous. Les hommes et les femmes qui ont été choisis, chargés de dire la loi, de proclamer, ils ont dit leurs mots. Je pense que la moindre chose serait, par respect pour cette constitution que nous aimons, d'accueillir. Bien sûr, les commentaires peuvent se faire et autres, avec les incohérences, les imperfections. Mais la première chose, c'est le respect de cette constitution.
L'Église catholique va donc adresser ses félicitations au président Touadéra?
En général, ce n'est pas dans notre usage, c'est dans notre habitude d'écrire ou d'adresser les félicitations. Nous prions pour les uns et les autres.
Une dizaine de candidats de l'opposition ont dénoncé les conditions du déroulement de cette élection. Condition que l'opposition juge non transparente. Quel est votre avis sur le déroulement du scrutin du 27 décembre dernier?
Le déroulement du scrutin du 27 dernier, du mois de décembre, était particulier. Le fait qu'il y avait des groupes armés qui ont empêché des gens de pouvoir voter. Au niveau de la capitale, où on a laissé l'opportunité aux gens de voter, nous avons vu une population sortie massivement, déterminée, engagée, à exprimer son suffrage, et nous avons salué cela. Mais les autres, dans certains lieux, n'ont pas pu. Ils ont été empêchés. À ce niveau-là, l'opposition, quand elle dit que tous n'ont pas voté, l'opposition a raison. Mais nous savons aussi la cause. Des hommes en armes ont décidé à ce que les gens n'aillent pas voter. La meilleure arme, ce sont les urnes. Le bulletin à déposer dans les urnes. Certains se sont trompés en prenant les fusils comme armes. Et nous avons vu le résultat. Nous avons des frères, des sœurs qui sont blessés, qui sont malades et qui ont été tués. Et nous déplorons cela.
Qui est responsable à vos yeux de la situation sécuritaire chaotique en ce moment en Centrafrique?
La situation sécuritaire qui s'est dégradée, ceux qui ont pris les armes, se sont prononcés et ils s'y sont affichés. Je crois que c'est à eux qu'il faudrait poser la question parce que eux-mêmes sont responsables, sont les auteurs. Ils savent pourquoi ils ont pris des armes. Nous pensons que tout doit se passer par le dialogue. Rien ne doit se passer par les armes.
Que pensez-vous de l'implication supposée de l'ancien président François Bozizé dans ces violences?
Je pense que le jour où vous allez le contacter, il pourra s'exprimer. Pour ma part, le jour où je l'ai rencontré, je l'ai exprimé la situation du pays en disant que ce pays a beaucoup souffert et souffre beaucoup. Nous devons tous rechercher la paix. Il m'avait donné aussi cette garantie. Mais la suite, je ne peux pas vous donner la réponse.
À l'issue d'un conclave, les évêques ont délivré dimanche un message intitulé « Lève-toi et marche ». L'Église catholique dénonce les violences en cours et appelle les acteurs à un dialogue. Pensez-vous avoir des chances d'être écouté?
Nous n'avons pas d'autre alternative. Tous les pays qui ont engagé des guerres finissent par déposer les armes, à engager le dialogue pour qu'un traité de paix soit signé. On ne pourra jamais vivre éternellement dans la guerre. Sinon, aujourd'hui, vous pensez être le plus fort. Demain, quelqu'un va être le plus fort, un autre plus fort à venir vous terrasser. On ferait mieux de nous asseoir, de nous regarder face à face, pas comme des ennemis, mais comme des frères,
Vous lancez ce message d'appel au dialogue, à l'apaisement depuis des années. Vous n'êtes pas écouté par la classe politique et des groupes armés. Est-ce que vous n'êtes pas un peu désespéré aujourd'hui?
Non, je ne suis pas désespéré. Tant qu'il y a encore une flamme d'espoir, tant qu'il y aura encore des hommes, je continuerai à dire à temps et à contre-temps. Parce qu'à la fin, les uns et les autres comprendront que ce n'est pas par les armes. Ce pays a beaucoup souffert, il souffre beaucoup. Il est temps de voir les vrais défis. Donner la chance aux enfants d'aller à l'école, construire les routes, construire des maisons, des hôpitaux, des emplois aux jeunes. En lançant l'appel au dialogue, je ne cherche pas à avoir un rôle. Je parle à des consciences. C'est cela que je cherche. Je ne cherche pas à avoir un rôle pour faire la médiation, non.
Et certains opposants accusent également le chef des Nations Unies, Mankeur Ndiaye, de partialité et d'avoir pris fait et cause pour le président Touadéra. Comment jugez-vous l'action et le rôle de la MINUSCA dans votre pays?
La MINUSCA est venue pour protéger les personnes et les biens. La MINUSCA était venue aussi pour accompagner ce pays. On va dire, la MINUSCA était une œuvre humaine. On a vu aussi les limites. Il y a des endroits où les gens attendaient beaucoup de la MINUSCA. Ils ont été déçus.
L'Église est-elle, elle aussi, déçue par l'action de la MINUSCA en Centrafrique?
Je pense que l'Église, son rôle, ce n'est pas de commencer à juger. Son rôle, c'est de pouvoir pointer du doigt ce que nous voyons et après inviter les gens à corriger, parce que nous sommes perfectibles. MINUSCA est venue pour un temps, eh bien, il va falloir qu'on travaille aussi pour que la souveraineté puisse s'exercer totalement.
Cardinal Dieudonné Zapalenga, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Archevêque de Bangui, en Centrafrique.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Peut-on assister ou peut-on s'attendre à des élections transparentes et crédibles en mars prochain au Congo? C'est la question à laquelle nous allons répondre ce soir avec nos invités. Patrick Dion, membre du comité central du PCT, le Parti congolais du travail au pouvoir. Il est également président du PCT en France. Monsieur Dion, bonsoir.
Bonsoir, chère madame.
Bonsoir, monsieur Didier Mawele.
Didier Mawele.
Bonsoir.
Vous m'entendez? Vous êtes le président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, du défunt président Pascal Issouba. Nous avons également avec nous Guy Mafimba, représentant de la Fédération de l'opposition congolaise à Paris. Monsieur Mafimba, bonsoir.
Bonsoir madame et merci pour votre invitation.
Merci à vous. Nous sommes également heureux de retrouver à Brazzaville Cephas Ewangi, coordonnateur national de la Coraged, les réseaux et associations de la société civile œuvrant pour la gouvernance démocratique et électorale. Bonsoir monsieur Ewangi.
Oui, bonsoir madame.
Merci à vous tous d'être là. Et je vais commencer par vous monsieur Dion. Les électeurs congolais sont donc appelés à élire leur président de la République le 21 mars prochain. Plusieurs candidats se sont déclarés. Le président sortant Denis Sassou Nguesso est votre candidat, il a été investi par votre parti. Et quel est le bilan qui lui donne, disons peut-être la légitimité aujourd'hui de vouloir empiler?
Pour être candidat à l'élection présidentielle, il n'est pas question, d'avoir une... la légitimité ou la représentativité ou le fait que le Parti congolais du travail, lors de son dernier congrès extraordinaire de décembre 2019, a pensé que le meilleur d'entre nous, c'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso, compte tenu de son bilan que vous connaissez très bien.
Mais justement, c'est de ce bilan-là que je voudrais que vous parliez. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que son bilan est bon et qu'il va le défendre avec succès auprès des électeurs congolais?
Écoutez, nous pensons que son bilan est bon. Pourquoi? Parce que sur le plan de la sécurité et de la paix est stable. Il y a la paix, il y a la sécurité, c'est grâce au président Denis Sassou Nguesso. Le Congo aujourd'hui est un pays où les institutions fonctionnent très bien. Donc c'est grâce aussi au président Denis Sassou Nguesso. Le Congo est un pays dont les bases de développement socio-économique, les bases de l'émergence ont été installées. Grâce à qui? Grâce au président Denis Sassou Nguesso. Au regard de ce qui précède, nous pensons que le développement économique étant un processus à long terme, nous pensons qu'un deuxième mandat le permettra de pouvoir achever notre politique qu'il a déjà mise en place, malgré les difficultés que vous connaissez, bien sûr, les difficultés issues de la crise économique.
Donc, en 36 ans de pouvoir, vous estimez qu'il n'a pas pu, qu'il est toujours en chantier et qu'il n'a pas terminé tous ses projets?
Tout à fait. Tout à fait. Nous pensons qu'il doit continuer pour que, justement, ce qu'il a amorcé puisse se terminer, ne puisse pas se terminer en cours de route. Et la crise économique étant là, la pandémie étant là, ça a affecté un peu quand même son dernier bilan, mais n'empêche.
Merci, M. Dion. M. Mawole, vous partagez les arguments que M. Dion avance, qui ont peut-être convaincu, d'après lui, le PCT à maintenir Sassou Nguesso comme son candidat en 2021. M. Mawele, vous êtes là? On va écouter M. Mafimba. Vous m'entendez, vous, M. Mafimba?
Oui, je vous entends très bien, madame.
Que pensez-vous des arguments que vient de présenter M. Dion concernant le bilan, madame, dit-il, de M. Sassou Nguesso?
Vous constaterez, je crois, avec vos auditeurs, qu'à travers le bilan qu'a voulu décliner M. Dion, on comprendra tout au long de cette émission que pourquoi le Congo-Brazzaville ne peut pas organiser, le régime de M. Sassou Nguesso ne peut pas organiser des élections libres, justes, équitables et transparentes. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu un bilan. Depuis 36 ans, ce monsieur a aujourd'hui amené le Congo à la banqueroute. C'est le pays quasiment le plus endetté par tête d'habitants. Nous avons aujourd'hui, je vous prends un exemple simple, les retraités qui sont à plus de 2 ans sans pension.
Il parlait en août dernier de 26 mois d'arriéré de pension.
Exactement. Le système sanitaire qui est dans un chaos inextricable, le système éducatif autant, et pour des questions de sécurité, de paix dont il part, je rappelle tout simplement à ce monsieur qu'aujourd'hui, il y a deux anciens candidats qui sont incarcérés injustement, tout simplement parce qu'ils se sont présentés. Maintenant, pour revenir à la thématique de ce soir, madame, vous voyez bien, le Congo aujourd'hui, c'est quoi? Quand on voit l'indice de la démocratie 2020, le Congo, sur 167 pays, est au 130e place. Et sur une proportion de 10, un chiffre de 10, le Congo est à 3,31 sur 10. Ça veut dire que le Congo est logé dans ce qu'on appelle des régimes autoritaires. Ce qui veut dire que ce monsieur ne peut pas organiser des élections de manière libre.
Merci beaucoup.
Juste et transparent.
Rassurez-vous.
Qui n'a pas de bilan.
Rassurez-vous, M. Mafimba, on va revenir dans un instant sur ce qui vous fait douter de la capacité des autorités à organiser des élections transparentes. Je voudrais que vous réagissiez d'abord au bilan que vient d'évoquer M. Dion du PCT, de leur candidat. M. Sefas Ewangi, vous m'entendez?
Oui, je vous écoute, madame.
Voilà. Est-ce que vous ressentez, vous qui êtes à Brazzaville, les avantages, je ne sais pas, ce que vient de dire M. Dion, il défend qu'il y a la paix, il y a la sécurité, même si l'économie est un tout petit peu en difficulté, comme vient de le dire M. Mafimba. Comment jugeriez-vous les 36 ans du pouvoir du candidat du PCT, puisque c'est lui qui doit défendre son bilan devant les électeurs le 21 mars prochain?
Bon, je me sens un peu mal placé à un moment donné, parce que je suis responsable des organisations de la société civile, et là, nous sommes en face du débat, d'un côté de ceux qui sont de la tendance du pouvoir, ou sinon du parti au pouvoir, et de l'autre, l'opposition, et nous savons naturellement que dans un système démocratique, ceux qui sont au pouvoir et à l'opposition, leurs intérêts ne coïncident pas par définition. Donc le rôle de l'opposition n'est pas de reconnaître ce qu'il y a de positif, de reconnaître les faiblesses, de reconnaître les failles, même si c'est minime. S'il faut les aggraver, on les aggrave, et là, c'est de bonne guerre. Et ceux qui sont du côté de la majorité...
C'est peut-être pour ça que vous êtes là, M. Ewangi, la société civile qui est censée être à équidistance des deux camps. Vous, quelle est votre analyse du bilan de Sassou Nguesso?
Bon, je ne voulais pas tirer le bilan, mais moi je peux dire une chose, madame, c'est que la République du Congo, notre pays, à la différence de plusieurs États sur le continent, avait subi ce qu'on appelle les colonies concessionnaires. Ça veut dire, à la différence des colonies de peuplement. Quand vous voyez les pays comme l'Angola, vous voyez le pays comme le Mozambique avec sa capitale Maputo, vous voyez comme l'Algérie, les pays qui ont connu les colonies de peuplement. Donc celui qui est venu coloniser était venu presque pour s'installer, pour faire l'assimilation. Donc ils se considéraient chez eux, ils ont commencé à bâtir ce pays comme leur pays. C'est pour ça qu'on peut faire la différence à partir de là. Alors, le Congo c'était a subi ce qu'on appelle une colonie concessionnaire. Le colon n'est pas venu pour arranger quoi que ce soit. Il n'est venu que pour tirer profit sur ou rechercher les intérêts.
Monsieur Wangui, je suis désolé de vous interrompre. Vous vous éloignez peut-être du débat, non pas que le rappel historique ne nous intéresse pas. On va bientôt marquer une pause et il va falloir écouter Monsieur Mawele. Est-ce que vous pouvez aller droit au but, s'il vous plaît?
Bon, en allant droit au but.
Mais si vous ne souhaitez pas non plus faire le bilan, on peut décider de ne pas. Si vous ne voulez pas, vous le dites.
Bon, le bilan, on ne peut pas dire qu'il est vraiment négatif. Parce que je note que notre pays a connu de progrès. Mais à côté des progrès, aussi, le pays connaît beaucoup de difficultés. Nous avons des problèmes de gouvernement, certes. Il y a l'opposition qui en dénonce, mais aussi le président de la République lui-même qui interpelle au jour la conscience nationale afin que les gens se ressaisissent et tout en œuvre pour appliquer les normes qui sont compatibles avec la gestion de l'État. Et nous savons que
donc, pour vous, le président est en dehors de ces critiques?
Mais en termes de progrès, on peut dire aujourd'hui que le Congo figure dans le top 10 des pays, par exemple, qui ont des aéroports les plus modernes sur le continent. Si quelqu'un est d'avis contraire, il peut le démontrer.
Merci.
Si on essaie de voir les infrastructures scolaires, on peut noter aujourd'hui ce qu'on a fait à Brazzaville, comme le lycée de la Révolution, comme l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele. Cette université, il est rare de trouver ce genre d'investissement en Afrique au sud du Sahara. On peut appeler ça le progrès.
Merci beaucoup. Merci. Mais pardonnez-moi, Monsieur Ewangi. Donc, je note que, en gros, vous parlez d'un bilan mitigé. Au-delà de la paix et de la sécurité dont parlait Monsieur Dion, vous estimez qu'au niveau des infrastructures, beaucoup de choses ont été faites. Monsieur Mawele, qu'on a retrouvé, vous êtes de cet avis, Monsieur Mawele?
Mawele, oui, Mawele présent.
Mawele, pardon. Allez-y, s'il vous plaît. Excusez-moi.
Oui, alors. Je pense que M. Dion, c'est peut-être tout à fait normal qu'il encense son champion, mais il faut qu'on sache que dans notre pays, la paix n'a jamais été retrouvée. On va rester sur deux endroits. La ville d'Onkaï a été en émeute quand a été assassinée la jeune Merveille. C'était son prénom. Elle a été encore en émeute la semaine dernière quand un autre jeune a été assassiné au niveau du commissariat. Hier, vous voyez, c'est pas, on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Hier, à Mfilou, au commissariat de Mfilou, une dame a été assassinée. Pareil. Alors, si c'est ça la paix, si on ne peut pas avoir confiance en la police, je ne crois pas qu'on puisse parler de paix.
Mais quand M. Ndian parlait de paix, j'imagine qu'il faisait allusion au contexte sous-régional un peu tendu. Ce sont des incidents d'atteinte aux droits de l'homme peut-être, mais c'est pas un véritable conflit.
Qui sont un véritable conflit, car cela soulève des populations entières. Cela soulève des populations entières et cela concerne chaque Congolais qui, le 21 mars, risque de s'en rappeler. Soyons-en conscients. Les armes sont pleines dans notre pays. Pendant 23 ans, nous n'avons rien fait de plus que d'acheter des armes.
Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs. Je vous retrouve dans un instant pour poursuivre, évidemment, ce débat sur les prochaines élections présidentielles au Congo.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans nos studios à Paris, il est 18h30, ainsi qu'à Brazzaville au Congo. Nous parlons ce soir des conditions d'une élection transparente et apaisée en mars prochain au Congo avec nos invités, Cephas Ewangi, coordonnateur national des réseaux et associations de la société civile. Didier Mawel, président de la coordination Europe-Afrique du parti d'opposition l'UPA-DS, Guy Mafimba, représentante de la Fédération de l'opposition congolaise à Paris, et Patrick Dion, membre du comité central du PCT, le parti au pouvoir, et également président de ce même parti en France. Monsieur Dion, on va justement vous laisser réagir à ce que viennent de dire les autres intervenants. Certains ont notamment insisté sur le fait que l'économie est sous assistance respiratoire, sous perfusion du FMI et en très grande difficulté. Vous ne le niez pas, j'imagine, puisque le ministre du budget l'a lui-même reconnu.
Tout à fait, ça serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle et politique que de nier une évidence. Le Congo, qui n'est pas un cas exceptionnel, comme l'ensemble des pays africains, et particulièrement les pays producteurs et exportateurs de pétrole, qui, dont le budget est fondamentalement basé sur les recettes pétrolières, a des difficultés, a des problèmes économiques, a des problèmes financiers. Ça, on ne peut pas le nier. Par contre, on peut aussi noter que le gouvernement, avec son Excellence M. Clément Mwamba, le président de la République, son Excellence le président de l'Administration de Gestion, font des efforts afin de pouvoir améliorer notre gouvernance pour que nous puissions sortir de cette crise.
Mais, d'accord, donc, les recettes budgétaires ont baissé de 50%, affirmait Ludovic Gatté en août dernier. À la question relative au non-paiement de 26 mois d'arriéré des retraités. Mais il y a aussi cette question de mauvaise gouvernance qui est reprochée au gouvernement. On estime que la situation économique est aussi due au fait qu'il y a une corruption endémique.
D'accord avec vous, madame. Aucun gouvernement ne peut prétendre dire que la gouvernance est absolument sans faute. Non, ce n'est pas possible. Nous avons une manière de gouverner, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous en disant qu'on peut améliorer cette gouvernance. Mais j'aimerais rappeler quand même à M. Guy Mafimba et à mon frère Didier ce qu'il a dit tout à l'heure en ce qui concerne la paix. Ne jouons pas avec la paix. Ce n'est pas un concept, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ce n'est pas parce qu'en Filou, il y a eu quelqu'un qui serait mort, ce n'est pas parce que Mademoiselle Mireille, père son âme, serait morte en Caï, qu'on peut dire qu'au Congo, il n'y a pas la paix. Non. Regardons ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement, avec le comportement atypique du président Donald Trump, avec l'envahissement du Capitole, il y a eu quand même 4 morts. Est-ce qu'on peut partir d'un petit cas comme ça pour généraliser, pour dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de paix? Non, on ne peut pas dire ça. Regardez ce qui se passe en France ici à tout moment avec les gilets jaunes et puis avec la mort du jeune Black dernièrement qui est mort. Il y a eu des soulèvements ici. Est-ce qu'à partir de là, on peut dire qu'en France, il n'y a pas de la paix? Non. Au Congo, il y a la paix parce qu'il y a la circulation libre des personnes, circulation libre des biens et des services, circulation libre des capitaux. Les gens vaguent à leurs occupations. On peut aller du nord au sud, de l'est à l'ouest sans aucun souci.
Mais merci.
On déplore effectivement qu'il y ait des cas périphériques comme ça. Oui, il peut y avoir mort d'homme quelque part ou mort de femme quelque part.
Merci beaucoup. Monsieur Wangui, vous saluez avant la pause tout à l'heure des avancées au niveau des infrastructures. Je voudrais que vous commentiez ce regard de la société civile Sassoufi qui, dans son rapport annuel sur la gouvernance politique au Congo, a relevé une aggravation de la mauvaise gouvernance en évoquant des cas d'intimidation, notamment des étudiants à l'étranger parce qu'ils demandaient leur bourse. Des atteintes inquiétantes des droits et libertés fondamentales. Vous estimez que ça suffit, exagère, c'est pas conforme à la réalité?
Non, moi je respecte leur opinion. La vérité, elle est relative. Donc chacun détient sa part de vérité et l'affirme comme bon lui semble. Donc moi je n'ai pas apporté ce jugement. Mais on note tout simplement, et certains l'ont évoqué, qu'il est de notoriété publique que le budget congolais est pour l'essentiel soutenu par la rente pétrolière. Et depuis que les cours du pétrole ont connu une chute drastique sur le marché international, naturellement, il y a une répercussion sur la vie nationale. Donc l'État n'a plus des moyens dont il disposait avant dans le cadre de la prise en charge des différents aspects liés à la vie nationale. C'est une évidence, le Congo est en difficulté parce que il y a la chute des cours du pétrole et notre économie n'étant pas suffisamment diversifiée, nous avons le coup. ce n'est un secret pour personne.
Et merci.
En dépit de cette, en tenant compte de cette réalité, l'État était de se battre dans la mesure du possible, d'éviter le pire, de trouver des solutions à notre portée, et petit à petit de voir comment la pente pourrait être redressée, et qu'en tirant toutes les leçons, on fera tous les efforts qu'il faut, de faire que toute l'économie nationale ne puisse pas continuer que sur une matière première. Ce sont les leçons qu'il faut tirer de tout ça, et de regarder l'avenir avec beaucoup d'espérance, et puis de voir comment on peut corriger un certain nombre de choses.
Merci, Monsieur Iwangi. Alors, Monsieur Mafimba, je voudrais qu'on parle précisément des conditions d'organisation de cette élection. On a parlé économie, mais maintenant, c'est le sujet politique. Lorsqu'il annonçait sa candidature en août dernier, Matthias Zon avait demandé de redéfinir le fichier électoral avec avant les élections, mais aussi la mise en place d'une commission électorale indépendante avant ce scrutin. Est-ce que c'est également votre bataille aujourd'hui au sein de la Fédération de l'opposition congolaise?
Oui, exactement. Juste en une phrase, pour dire sur les questions de paix. Juste rappeler, madame, à vos auditeurs et à vous-même, qu'aujourd'hui, le Congo, le plus gros budget de l'État congolais, c'est le budget de la défense. Pour un pays qui se dit en paix, vous pouvez vous expliquer qu'au moment où il n'y a même pas une aiguille dans les hôpitaux, mais le plus gros budget du Congo, ce sont les armes que M. Sassou Nguesso achète. Et aujourd'hui, il y a des forces.
Il y a les attaques terroristes, il faut les prévenir, il faut s'y préparer.
Oui, vous savez bien que les terroristes au Congo, les terroristes pour ce régime, ce sont les Congolais. D'autant plus que dans le pool aujourd'hui, il y a toujours des régiments, il y a toujours des bataillons qui sont stationnés dans le pool et qui encerclent le pool.
Le fief de Paston Toumi.
Voilà, je voulais préciser cela.
D'accord. Maintenant, à notre question sur les préparations des élections prochaines. Mathias Zon dit qu'il faut refaire la loi électorale parce que l'actuelle est inique. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que c'est votre lutte aujourd'hui?
Et je dis ceci, madame. Je vous ai donné tout à l'heure l'indice du Congo. C'est 3 sur 10. C'est-à-dire que c'est un régime totalitaire. Je vous dis aussi que ce même régime qui avait inscrit dans la Constitution, et M. Wangi, qui se dit de la société civile, le sait, qu'avant chaque élection, on a créé dans la Constitution un organe pour le dialogue en permanence, géré par un certain monsieur Mberi. Et il était dit par ce même régime, en tenant compte de ce qui s'est passé en 2016, qu'avant chaque élection, les Congolais devaient se retrouver autour d'un dialogue.
Excusez-moi, il y a le dialogue de Madingou. Il y a eu Madingou en novembre dernier,
C'est une concertation, madame. C'est une concertation qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont inscrit dans leur propre constitution. Donc ils ont violé la constitution. Deux, maintenant, les élections, c'est quoi? C'est d'abord la maîtrise du corps électoral. Madame, ils veulent faire une révision des listes électorales sur une matrice qui date de 2014, je dis 2014-2013. Comment pouvez-vous expliquer cela? Alors qu'il était entendu qu'on devait faire un recensement administratif spécial et de ce recensement, on devait tirer un corps électoral. Deux, l'organe qui doit organiser les élections, dont M. Ewangi qui se dit de la société civile, en fait, c'est ce qu'on appelle des relations incestueuses avec le pouvoir, parce que ce monsieur sera incapable de vous sortir un rapport de son fameux organe de la société civile, il n'est que la clientèle du pouvoir. Donc dans ce fameux CENI...
Est-ce que vous pouvez terminer vos propos sans attaquer, s'il vous plaît, les personnes? Je vous ai posé une question claire. Terminez vos propos,
madame,
s'il vous plaît.
Je qualifie parce que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle des relations incestueuses. Il se présente comme un homme de la société civile.
D'accord. Pour vous, la commission électorale n'est pas indépendante.
La commission nationale indépendante, elle est indépendante que de nom. Parce que M. Wangi qui fait partie de cette commission, n'est que du pouvoir. Même le représentant de l'opposition dont ils appellent l'opposition constitutionnelle, Monsieur Mawel vous le dira si bien. Lorsqu'ils ont sorti le décret pour mettre en place cette organisation indépendante, Monsieur Kassim Abiala, n'est pas au courant.
C'est le leader de l'opposition. Merci voilà. beaucoup. Merci.
L'autorité qui met en place.
Merci, monsieur Mafimba. Monsieur Mawele, en quelques mots sur cette demande de monsieur Zon, est-ce qu'il y a eu une évolution aujourd'hui par rapport à ce qu'il souhaitait, le fichier électoral et la commission électorale, la mise en place d'une commission électorale indépendante?
Non, alors, je suis complètement d'accord avec monsieur Guy Mafimba que la commission n'est absolument pas du tout indépendante. D'ailleurs, en violation de la loi, en violation de la, donc l'article 8 de la loi numéro 1599 du 15 avril 99, donc sous M. Denis Sassou-Nguesso, stipule la chose suivante. L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec toute fonction publique ou élective et de toute autre activité professionnelle ou salariée, à l'exception des activités agricoles. Enfin, nous avons, comme président de la commission électorale, le président de la Cour suprême. C'est-à-dire la personne qui, après les élections...
Henri Bouca,
qui, après les élections, devra dire si c'est valide ou pas. C'est cette personne-là qui est à la tête, donc, d'une part. Quand il parle de quand
donc, vous doutez de son indépendance, parce qu'il est aussi premier président de la Cour suprême.
Non, ce n'est pas une indépendance, c'est une violation de la loi, déjà, tout simplement. Là, ce que je vous disais là, c'était la loi que je vous récitais. Hein. C'est la loi que je vous récitais. C'est interdit que l'on soit, d'un côté, magistrat, un grand magistrat comme lui, et que l'on puisse avoir une fonction qui est celle de président de la commission électorale. Donc, cette commission électorale, d'indépendance que le nom.
N'est Merci. Pas du tout indépendant. Merci.
Ça, c'est la première. Mais, et de notre côté...
Encore 20 secondes, s'il vous plaît.
Le corps électoral est complètement faux. On essaye de partir de l'élection de 2016, de recensement administratif qui a été fait en 2014, mais que tout le monde... Nous n'avons jamais accepté ce recensement parce qu'il est complètement faux.
Merci beaucoup.
Parce qu'il se faisait ressortir des défauts, mais alors alarmants. Comment vous voulez qu'une région marécageuse, qui est la Likwala, devienne la région la plus peuplée du Congo?
Merci, monsieur Mawel. Merci beaucoup. On va écouter monsieur Ewangi. Alors, monsieur Ewangi, les deux représentants de l'opposition, ils s'estiment que le code électoral est à refaire. En tout cas, ils le contestent. La commission électorale est verrouillée parce que son président, disent-ils, n'est pas indépendant. Est-ce que, d'après vous, on pourrait s'acheminer véritablement vers une élection transparente dans de telles conditions?
Non, je vais d'abord dire que quand ce genre de débat, il faut qu'on évite les passions et les émotions. Et quand on n'a pas les mêmes données d'appréciation, vous avez des gens qui disent tout et n'importe quoi. Quand j'écoute que dans la Constitution, dans la loi, il est prévu qu'avant chaque élection, qu'il y ait un dialogue, est-ce qu'on peut donner l'article de cette loi? Ça n'existe pas. Nous avons fait de ce pays, dans ce pays, c'est donner une culture. Avant chaque élection, le ministère de l'Intérieur en charge des questions électorales, qui agit du côté du gouvernement en dehors de la commission qui existe, organise ce qu'on appelle les concertations politiques. La concertation consiste à se dire, on s'assoit dans une salle, on est à la veille des élections dans 2, 3, 4 ou 5 mois, voilà le niveau de préparation. Que pensent les uns et les autres? Est-ce qu'il y a des faits, des aspects qui méritent d'être corrigés? Est-ce qu'il y a des recommandations qu'on peut donner au gouvernement, etc., etc.? Tout ceci pour chercher à créer un esprit consensuel afin que les élections cessent au Congo d'être les moments cauchemardesques qui créent des conflits, des désillusions
et des tensions.
Des situations qui ne vont pas dans le sens. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a aucune position qui dit que. Et puis, quand tu parles de mairie, du Conseil national du dialogue, le Conseil national du dialogue ne siège que quand le président de la République constate qu'il y a un fait majeur qui le préoccupe. En ce moment-là, il prend un décret pour convoquer un dialogue et le Conseil national de dialogue se charge de conduire le processus.
Merci.
Il y a une disposition d'une loi qui dit que ce Conseil national de dialogue a pour mission d'organiser des dialogues préélectoraux. C'est écrit nulle part et ça, je le regrette.
Merci beaucoup, Monsieur Ewangi. On va marquer une autre pause, la dernière.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment garantir des élections crédibles et transparentes au Congo? C'est le thème de notre débat ce soir avec Guy Mafimba, représentant de la Fédération de l'opposition congolaise à Paris, Didier Mawel, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS, Patrick Dion, membre du comité central du PCT et président du PCT en France, et enfin Sefa Sewangi, coordonnateur national des réseaux et associations de la société civile à Brazzaville. Monsieur Dion, vous avez suivi les interventions de Monsieur Dion et Mawel. Que répondez-vous à ces critiques sur la loi électorale jugée inique, la commission électorale présidée, dit l'opposition, par une personnalité qui, d'après elle, n'est pas neutre? Est-ce que vous pensez qu'on s'achemine vers des élections douteuses et contestées?
Les élections ne seront pas douteuses, les élections ne seront pas contestées, au contraire. Les conclusions qui ont été tirées du dernier pacte, de la dernière concertation politique de Madingou attestent que nous irons vers des élections apaisées, transparentes et des élections très pacifiques. Deuxièmement, je m'inscris en faux contre les affirmations gratuites, fallacieuses même d'ailleurs, de la part de M. Mawel, de la part de M. Guy Mafimba, selon lesquelles M. Henri Bouka, qui est le président de la Commission nationale électorale indépendante, serait un personnage
qui n'est pas impartial. Il est premier président de la Cour suprême, c'est ce qui inquiète l'opposition.
Écoutez, je veux me permettre de vous donner quand même la composition du bureau de la Commission nationale électorale indépendante. La première vice-présidence est dirigée par représentée par un membre de la majorité présidentielle. La deuxième vice-présidence par l'opposition, un gars de l'opposition. La troisième vice-présidente, un membre du centre. Et la quatrième vice-présidence par un membre de la société civile. Donc, il y a une représentation qui est vraiment paritaire. Je dis bien paritaire. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, il n'y a aucune incompatibilité. Contrairement à ce que M. Mawel dit, il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être magistrat et le fait de diriger la Commission nationale électorale et indépendante. En effet, la constitution de la République, notamment du 25 décembre 2015, stipule bien à son article 184 que les fonctions de membres d'un... Je rappelle quand même que M. Henri Bouka n'est pas membre du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui valide et promulgue les résultats définitifs de l'élection. Et l'article 184 nous dit que les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, du Parlement ou de la Cour suprême. Merci. Il s'avère que M. Henri Bouka n'est pas membre de la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas incompatibilité.
Merci beaucoup.
Par ailleurs...
Terminez, s'il vous plaît. Il nous reste 5 minutes.
Henri Bouka sont connus, sont incontestables. Il est quand même magistrat.
Merci beaucoup. Monsieur Mafimba, d'où vient donc que Pascal Tati Mabiala, chef de l'opposition, demande une prorogation du mandat du président Sassou, car dit-il en l'état actuel des choses, le prochain scrutin présidentiel ne sera pas crédible. Pourquoi il le dit alors que Monsieur Dion soutient que la commission électorale est bien équilibrée et qu'elle a une représentation paritaire, pouvoir opposition?
Voyez-vous, madame, depuis l'avènement de notre pays au pluralisme politique, nous avons eu une seule élection crédible, sans violence, c'est en 92, organisée par M. Milongo, père son âme. 2002, organisée par M. Sassou Nguesso, le candidat qui était en face, M. Milongo, s'est désisté deux jours avant par peur des violences. 2009, il y a eu des violences. 2016, il y a eu des violences et il y a deux candidats qui sont encore en prison. Et M. Tati Mabiala, je pense que par le bon sens, il sait pertinemment que tous les Congolais le savent, que les conditions à un mois ou deux mois ne sont pas réunies.
M. Sassou Nguesso est en train de préparer les conditions des violences encore pour les Congolais. Comme il aime le dire, c'est pour faire couler le sang et les larmes de Congolais. Et je dirais, je terminerai en disant ceci. C'est pas par hasard qu'on a donné le qualificatif de l'empereur à M. Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire et en Guinée. Parce qu'il a exporté le mode opératoire pour s'imposer au pouvoir par la force.
Merci.
Et ce n'est pas, je veux dire, une qualité, ce n'est pas... nous sommes devenus la risée du monde à travers ce monsieur qui est M. Sassou Nguesso, qui n'est qu'un autocrate.
Merci. Voilà. M. Ewangi, quand on écoute M. Mafimba, on a l'impression que tous les ingrédients d'une élection compliquée, difficile et contestée sont réunis.
Bon, s'il fait son travail de l'opposant, j'apprécie M. Mafimba, je le connais, je trouve que c'est un Congolais intellectuel brillant, bon, donc il défend ses plus. Mais si on veut apprécier l'élection transparente, non, c'est en fonction de la loi, c'est pas en fonction de nos pensées, c'est pas dans les procès en sorcellerie, c'est par rapport aux dispositions de la loi. Et la loi congolaise, dans sa constitution, dans son architecture, prévoit la présence de toutes les parties prenantes à tous les niveaux où se déroulent les élections.
Donc, pour vous, la commission électorale est représentative.
Jusqu'au bureau de vote. Vous imaginez que même dans les bureaux de vote, il doit y avoir 4 assesseurs. Les 4 assesseurs, il y a un représente l'opposition, un la majorité, un le centre, un la société civile. 2, tous les candidats aux élections, tous les candidats, je dis bien tous les candidats, au regard de la loi, ont le droit d'avoir leur représentant dans l'ensemble des bureaux de vote.
Donc vous ne comprenez pas les critiques de l'opposition, l'élection du 21 mars prochain sera crédible et transparente, selon vous?
Mais en réalité, ils ne donnent pas de vrais éléments qui peuvent montrer que ça ne puisse pas être transparent, parce que c'est au regard de la loi que s'organisent les élections.
Merci
beaucoup. Ce n'est pas des débats de rue. Ce n'est pas les débats de passion ni d'émotion. C'est au regard de la loi. Moi, j'aurais voulu que Dieu dise, dans la loi électorale, voilà quelles dispositions de l'application conduiraient à ce que l'élection ne soit pas transparente. Comme on cite cet article.
Merci beaucoup. Monsieur Mawel, pour terminer, vous avez une minute.
On dit que à la transparence.
Merci beaucoup, monsieur Wangi. Monsieur Mawel, votre conclusion?
Oui, vous avez cité le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Tshimabiala. Et Pascal Tshimabiala n'est toujours pas satisfait, bien entendu. Et il espérait, à un moment, lors de sa dernière conférence de presse, que le président de la République devrait réexaminer ce problème du corps électoral qui ne doit pas sortir d'un recensement administratif, mais plutôt d'un recensement général de la population et de l'habitat. Ce n'est pas fait. Et donc, nous savons que nous allons à des élections avec un corps électoral qui est faussé, et nous savons que...
Mais vous y allez quand même. Il y a une candidate, il y a une opposante qui a déclaré que les dés sont pipés d'avance. Mais jusque-là, l'opposition quand même compte y aller. En l'occurrence, Claudine Mounari.
Madame Mounari n'y va pas. Du point de vue de l'UPADES, nous ne savons pas, parce que c'est notre Conseil national qui va en décider la semaine prochaine. Hein, et avant cette décision du Conseil national, l'UPADES n'a pas de candidat.
Merci beaucoup. En tout cas, elle estime que les résultats de ce scrutin sont connus d'avance. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour ce débat sur les conditions de l'organisation des élections présidentielles du 21 mars prochain au Congo. Merci à Cephas Ewangi, coordonnateur national de la CORAGED, les réseaux et associations de la société civile œuvrant pour la gouvernance démocratique et électorale. Il est à Brazzaville. Patrick Diomo, membre du comité central PCT et président du PCT en France, Didier Mawel, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADES, du défunt président Pascal Issouba et Guy Mafimba, représentant de la Fédération de l'opposition congolaise à Paris. Merci à Hugo Vallière et à Édouard Bérangéni qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous retrouve demain pour parler des visas français en Afrique. Bonsoir.